Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. C'était il y a un an, jour pour jour, à Washington, des milliers de partisans de Donald Trump qui lancent un assaut contre le siège du Congrès américain. Les images restent gravées à jamais, hein, comme celle de cet homme faisant irruption dans le Capitole vêtu d'une peau de bête et de cornes de bison sur la tête. Ces faits intervenaient le jour de la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine. Alors un an plus tard, qu'est-ce qui a changé aux États-Unis ? La situation inquiète, à l'image de ce sondage publié en début d'année et qui indique qu'aujourd'hui, un Américain sur trois estime que la violence contre le gouvernement pourrait être justifiée. Où situer la démocratie américaine aujourd'hui ? Quelles sont les menaces et comment l'Amérique peut-elle s'en sortir ? C'est notre débat ce soir. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, tout d'abord à mes côtés dans le studio, Jérémy Guez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à HEC, spécialiste des États-Unis, auteur du livre « États-Unis, déclin improbable, rebond impossible ». C'est vraiment dans le cœur de notre débat. Nos deux autres invités sont en ligne avec nous, Nicole Bacharan, bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, politologue, votre livre « Les grands jours qui ont changé l'Amérique » et cet assaut du Capitole le 6 janvier 2020 en fait partie. Simon Grivet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste des États-Unis. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation de RFI pour ce débat. Alors pour commencer, je voudrais qu'on écoute un petit extrait du discours que le président américain Joe Biden a prononcé cet après-midi depuis Washington. Et évidemment, je vais vous faire ensuite réagir à ses propos. Le président américain s'exprimait évidemment à propos de cet assaut donc mené contre le Capitole le 6 janvier 2020.
My fellow Americans, in life there's truth.
Mes chers compatriotes américains, dans la vie, il y a la vérité et tragiquement les mensonges. Les mensonges peuvent s'amplifier, se propager pour de l'argent ou du pouvoir. Nous devons être absolument clairs sur ce qui relève de la vérité et sur ce qui relève du mensonge. Et voici la vérité. Un ancien président des États-Unis d'Amérique a créé et répandu un tissu de mensonges sur l'élection de 2020. Il l'a fait parce qu'il privilégie le pouvoir par rapport aux principes, parce qu'il voit son propre intérêt comme plus important que celui du pays, l'intérêt de l'Amérique. Et parce que son ego meurtri compte plus pour lui que notre démocratie ou notre constitution, il ne peut pas admettre qu'il a perdu.
Voilà, la lourde charge donc, de Joe Biden contre son prédécesseur, c'était cet après-midi à Washington, Donald Trump qui a répondu à Joe Biden en dénonçant, je cite, « le théâtre politique de Joe Biden pour faire oublier ses échecs ». Fin de citation. Jérémy Guez, ma première question, est-ce que vous diriez bien qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir finalement d'apaisement de la société américaine sans apaisement des deux grands partis ?
Oui, c'est exactement le cas, mais même cet apaisement entre les deux grands partis est vraiment difficile à imaginer. Sur ces événements du 6 janvier, demander à un démocrate de commenter, de donner son interprétation, il vous dira que c'était une menace existentielle sur le système démocratique américain. Poser la question, la même question à un républicain, il vous dira que c'était une très mauvaise journée, et encore, ça dépend à quel républicain on posera la question, et il vous dira peut-être que Joe Biden essaye d'utiliser ça dans un esprit partisan pour essayer de mieux attaquer, de mieux masquer finalement ses propres failles. Donc apaisement entre les deux grands partis, c'est difficile à imaginer. Je pense que plus que jamais, ça a toujours été le cas, mais encore plus que jamais, le seul dénominateur commun aujourd'hui, c'est la prospérité économique qui peut réconcilier ce pays. Politiquement, c'est très difficile à imaginer autrement.
J'ai lu que finalement, démocrates et républicains étaient adversaires, ils sont devenus ennemis. Vous partagez ce constat ?
Oui, ils sont devenus ennemis dans un système de plus en plus tribal. Dites-moi, demandez à un Américain ce qu'il pense du masque, ce qu'il pense du vaccin, et vous arriverez à le placer assez facilement sur l'échiquier politique. C'est un système politique qui était fondé sur les accords bipartisans. Les pères fondateurs de l'Amérique ont imaginé ces accords bipartisans comme une force motrice pour faire avancer le système politique américain. Aujourd'hui, pardon pour cet anglicisme, mais le overlap, les aspects communs entre les deux grands partis devient de plus en plus réduit. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour la capacité de ce système politique à fonctionner correctement.
Nicole Bacharan, est-ce que vous partagez ce constat de Jérémy Guez ? La défiance est de plus en plus importante entre les deux grands partis américains. Et est-ce qu'elle est finalement, cette défiance, le curseur aujourd'hui de la société américaine ?
Oui, mais je rejoins tout à fait ce que disait Jérémy Guez à l'instant. Ça ressemble beaucoup à la question du vaccin que l'on va se développer en France ou ailleurs. Vous avez une partie du public américain qui n'accepte pas les faits, qui ne reconnaît pas de vérité. Donald Trump va partout, il l'a fait avant, il le fera dans quelques jours dans un autre meeting, répétant que le 6 janvier, c'était une manifestation pacifique contre une élection volée. Or, toutes les preuves locales à tous les niveaux de la légitimité de cette élection ont été données, mais surtout le 6 janvier, on a des images qui parlent d'elles-mêmes. Voir ces images et parler de manifestations pacifiques, ça prouve que la raison s'est enfuie. C'est bien au-delà même de la division partisane, puisque ce n'est pas une opinion politique, c'est une dérive psychologique très grave, très sérieuse, mais qui met en péril, évidemment, les institutions démocratiques.
Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, aujourd'hui, 71% des électeurs républicains, d'après un dernier sondage, croient encore que l'élection présidentielle a été volée au camp Trump en raison de fraude massive. Plus d'un an plus tard, on est encore dans ces discussions, dans cette idée que l'élection a été volée ou pas volée.
Mais on l'est absolument, mais même si Donald Trump n'a pas inventé les fake news, n'a pas inventé le complotisme, n'a pas inventé les réseaux sociaux, il représente, un an après ces événements du 6 janvier, un poison qui mine totalement la démocratie américaine, parce que c'est un homme extrêmement narcissique, centré sur son propre destin, et qui n'a qu'une idée en tête, prendre sa revanche et imposer ce mensonge de l'élection volée. Il en fait le test absolu des élus, candidats, responsables républicains, qui seraient légitimes ou non. Il faut adopter son idée ou sa vision, son mensonge sur l'élection volée. Donc, à partir de là, tant que Donald Trump sera une force aussi active, aussi influente dans la vie politique américaine, il est très difficile d'imaginer un chemin de réconciliation.
Donc, on parle d'une démocratie en danger aujourd'hui aux États-Unis. La faute à Donald Trump, selon vous ?
Il a une forte responsabilité. Il n'est pas le seul responsable. Bien loin de là, la division partisane, elle est ancienne. L'acrimonie entre les élus, elle est très forte depuis fort longtemps. Mais par contre, l'adoption au sommet de l'État du mensonge systématique, là, Donald Trump en est responsable.
Simon Grivet, on veut vous entendre et vous souhaitez réagir sur ce sujet justement du... Est-ce que c'est le compromis bipartisan? Ça existait à un moment. Ça existe toujours.
Il faut pas, on l'a vu sur la loi sur les infrastructures, par exemple. Ça a été très pénible à accoucher, mais c'est sorti quand même. Il y a eu des démocrates et des républicains qui ont voté ensemble. Mais je pense que...
Donc c'est possible.
Oui, c'est possible sur certains sujets, mais ce que je voudrais dire plutôt, alors on a raison de pointer l'énorme responsabilité de Trump pour ces événements, mais je pense que vous avez parlé de réconciliation entre les deux partis. De mon point de vue, c'est plus qu'il faudrait que le Parti républicain se réconcilie avec la démocratie états-unienne, c'est-à-dire qu'on a un Parti républicain qui est sous la coupe, effectivement, d'un autocrate en puissance, qui est Donald Trump, et qui ne fonctionne plus comme un parti de gouvernement, c'est-à-dire que on a vu effectivement quelques-uns de ses membres du bout des lèvres condamner ce qui s'était passé. Par exemple, leur leader à la Chambre, McCarthy, qui est un élu conservateur de Californie, l'a fait. Et puis trois semaines après, il a été embrassé, entre guillemets, la main de Trump dans sa villa de Floride. Idem avec le leader McConnell au Sénat, qui a eu des mots très durs contre Trump dans un discours au Sénat, mais qui a bloqué, ralenti et finalement saboté la question de l'impeachment fin janvier, début février 2021. Donc, de mon point de vue,
comment expliquer cela ? Pardon, je vous coupe, mais ça m'intéresse. Comment expliquer ce revirement ? Et avant d'entendre votre réponse, je voudrais citer un sondage, encore un sondage, mais du Wall Street Journal, qui dit que 81% des électeurs républicains ont une opinion favorable de Trump. Donald Trump était persona non grata il y a quelques mois au sein du Parti républicain. Il apparaît comme l'homme providentiel pour 2024.
Non, alors il faut différencier les électeurs de l'élite élue qui l'a jamais aimé mais qui vit avec, quoi. Non, je pense que ce qu'il faut bien avancer sur Trump, c'est son pouvoir. C'est vraiment un rapport de force brut, le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Il a cette relation avec la base, entre guillemets, républicaine. Et il est capable de mobiliser des gens, de mobiliser des donateurs de manière massive. Il a un trésor de guerre qui se chiffre en probablement autour de 150-200 millions de dollars qu'il peut utiliser, et c'est ce qu'il fait pour, comme on dit en anglais, soutenir certains candidats dans certaines élections, notamment des responsables qui vont ensuite siéger dans des commissions électorales dans des états clés. Il tisse sa toile, il prépare son retour, et tout le monde a peur de lui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez quelques élus républicains qui ont essayé de s'opposer à lui, la fille Cheney, vous avez, ils étaient une dizaine, on s'en rappelle, une dizaine de députés et puis quelques sénateurs, ils ont tous été à peu près, entre guillemets, éliminés politiquement. Ils ont dû renoncer à leur carrière, ils ne se représenteront pas aux midterms de 2022, aux élections législatives de 2022, où ils devront passer la main, où ils se sont tués, comme Mitt Romney qui s'était opposé à Trump et qui aujourd'hui s'est contenté d'un petit communiqué pour dire « bah oui, n'oublions pas ce qui s'est passé ». Donc il a ce pouvoir sur le Parti républicain, les républicains n'osent pas s'opposer à lui, et c'est la situation actuelle. Et effectivement, ça lui permet de continuer à mentir, et il a ses relais dans la nébuleuse médiatique conservatrice, que ce soit Fox News, que ce soit les podcasts politiques, etc. Et ça continue à fonctionner pour l'instant.
Alors, Jérémy Guez, c'est effectivement intéressant cette place de Donald Trump. On s'intéresse ce soir à la société américaine plus qu'au parti américain, même si évidemment, on a bien compris en ce début de débat qu'ils ont un rôle primordial dans la fracture aujourd'hui de la société américaine. Mais concernant cette société, est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump reste une image de cette société américaine?
Alors, c'est assez frappant, parce que la réponse est oui, il reste une image. D'ailleurs, toutes ces images du 6 janvier étaient assez saisissantes du point de vue symbolique, parce que finalement, on avait là affaire au cœur, au noyau dur de l'électorat de Donald Trump, hein, le plus extrême, qui avait voté pour lui parce qu'elle avait l'impression, cet électorat avait l'impression de perdre le pouvoir en quelque sorte, et de devenir minoritaire. Et donc là, pour eux, le 6 janvier, là aussi, c'était une bataille existentielle, c'était la dernière bataille pour essayer de sauver le chef. Mais ce qui est tout aussi paradoxal, et ça peut surprendre, mais Donald Trump, je me demande s'il n'est pas en train de se normaliser aussi dans le paysage politique américain. Il s'est passé quelque chose d'absolument saisissant le mois dernier. Le journaliste très conservateur Bill O'Reilly faisait un tour historique en fait à Dallas et avait comme invité à un de ces événements Donald Trump, qui a annoncé à la foule, et les auditeurs se souviennent peut-être de ces images, qu'il était triple vacciné. Il a été hué par la salle. C'est Donald Trump a incarné ce mécontentement, cette espèce de révolte vis-à-vis de Washington, mais ce mécontentement et cette révolte est en train presque de le dépasser. Et donc, c'est faire attention quand on est démocrate, parce que oui, accuser Donald Trump, finalement, de cette violence, je pense qu'ils ont raison, factuellement parlant, mais de faire attention parce que ce mouvement de fond de structure pourrait aussi dépasser ces deux systèmes politiques.
Ça veut dire que les excès de Donald Trump sont devenus une forme de normalité aux États-Unis. Nicole Bacharin disait finalement que c'est sans Donald Trump, la démocratie n'en serait pas où elle en est aujourd'hui. Vous vous dites que même si Donald Trump disparaît du paysage politique, il n'est jamais très loin, il y a son empreinte qui reste.
Indubitablement.
Et cette fracture qui perdure?
Indubitablement, et le Trumpisme perdurera. Ça sera peut-être quelqu'un qui portera le nom de famille de Trump ou pas, et ça sera peut-être quelqu'un qui sera aussi difficile que ça soit d'imaginer, mais encore plus à droite, ou encore plus dans la révolte et dans le mécontentement.
Mais qui l'entretient, cette fracture?
C'est tout un système, si vous voulez, parce que, alors, il y a beaucoup de raisons, mais c'est le propre d'un pays qui est en train de se transformer démographiquement, dans lequel il y a un certain nombre de parties prenantes et dans lequel il y a un certain nombre de perdants sur le plan sociologique, sur le plan économique et même sur le plan sanitaire. Il y a eu une épidémie avant la crise sanitaire que nous connaissons, une épidémie médicamenteuse autour des opioïdes qui a tué 500 000 Américains, surtout dans toute cette région de l'Appalache, donc principalement cette classe moyenne américaine traditionnelle. Donc finalement, il y a un ensemble de facteurs qui sont en train de transformer ce pays et un certain nombre de personnes qui se demandent mais comment est-ce que je vais survivre ou comment est-ce que je vais maintenir mon statut de classe moyenne.
Nicole Bacharan, vous partagez peut-être pas ce point de vue. En tout cas, vous sembliez dire quelque chose d'un peu différent au début en disant que finalement, la faute à Donald Trump, c'était une des questions que je vous ai posées. Ce que vous nous dire, Jérémy Guez, c'est que finalement, avec ou sans Donald Trump, cette fracture, cette division profonde de l'Amérique, elle restera dans les prochaines années.
Je pense que Donald Trump n'est absolument pas sorti de rien et que son élection en 2016 s'est produite parce qu'il a su capter, il a su exprimer, amplifier avec outrance, mais quand même en donnant une, ce qu'il disait lui-même, en donnant une voix à tous ces déclassés de l'Amérique, tous ceux qui pensent qu'ils sont en train de perdre leur statut, de perdre leurs emplois, à qui souvent des démocrates bien intentionnés bien expliquer que leur métier est pollué, que leur manière d'aller à l'église tous les dimanches, c'est ridicule, que la chasse et la pêche, c'est pour les arriérés, etc. Donc, c'est là-dessus que Donald Trump a surfé en 2016. Il a un tempérament, des mœurs politiques qui l'ont fait utiliser le mensonge, l'injure, la menace de la violence à tout instant. Il l'a légitimé et évidemment, il a amplifié des tendances existantes. Il a, et après lui, avec lui, ça va continuer, ça peut se transformer avec d'autres leaders, avec d'autres événements qui parfois transforment profondément un pays. Mais ça date d'avant Trump, ça continuera après Trump, mais il a une responsabilité très lourde dans ce climat de violence qui est toujours sous-jacent.
Responsabilité lourde, mais une culture finalement de la division qui imprègne aujourd'hui, vous nous dites, la société américaine. Le mandat de Joe Biden ne change rien.
Mais le mandat de Joe Biden, il est en demi-teinte. C'est pas quelqu'un qui apporte un souffle, une vigueur. C'est pas quelqu'un qui fait rêver. Il a réussi certaines choses. Hein. Simon Grévé citait le plan d'investissement dans les infrastructures. Mais enfin, c'est un plan sur 10 ans. Donc, les Américains n'en voient pas tout de suite le bénéfice. Un grand plan d'aide au moment de la pandémie, au début de l'année 2021, qui a été très bien venu. Mais pour le reste, il peine énormément. Son propre parti le coince, si j'ose le dire, sans arrêt. Il n'a même pas besoin d'avoir une opposition pour ne pas pouvoir faire passer la suite de son programme. Il me semble que la débâcle de Kaboul, la manière dont les Américains ont quitté l'Afghanistan et où on a vu Joe Biden semblant à la fois épuisé, dépassé, ça a atteint son leadership d'une manière que je crains définitive. Donc, dans un pays où le besoin de calme est là, il joue son rôle, mais où il faudrait beaucoup plus de capacité personnelle à embarquer, si j'ose dire, tous ces Américains qui se sentent perdus, qui regrettent Donald Trump ou qui vivent dans un monde parallèle où la raison n'a plus cours, Joe Biden, effectivement, ne peut pas vraiment jouer ce rôle-là.
Simon Grivet, vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que Joe Biden peut parvenir à ce rassemblement qu'il avait promis hein, quand il a pris le pouvoir ?
Alors, encore une fois, moi, je pense qu'on a tort de se focaliser outre mesure sur la personnalité de Biden. On a eu un président qui entraînait beaucoup, qui était extraordinairement charismatique, c'était Barack Obama. Et puis au bout de 2 ans, Barack Obama a été absolument neutralisé par le poids du système des institutions et puis de l'offensive conservatrice. Et on a un petit peu le même scénario qui se remet en place, c'est-à-dire qu'on oublie toujours que Biden est confronté au fait que voilà, le Sénat est absolument menotté par cette histoire de filibuster, donc le fait que n'importe quel sénateur peut stopper les débats, parce qu'il n'aime pas ce dont on parle. Voilà. Et en plus, la majorité démocrate au Sénat est minuscule, elle est 50 plus 1, c'est-à-dire juste, il faut que la vice-présidente Harris soit présente pour qu'éventuellement on puisse faire passer quelque chose. Et parmi les 50 démocrates, il y en a 2 qui sont quasiment républicains, c'est Manchin et Sinema en Arizona, qui sont quasiment toujours d'accord avec les républicains.
Donc la désillusion américaine, elle vient aussi des institutions, c'est ce que vous voulez nous dire.
Voilà, les institutions.
On a parlé de Donald Trump.
Il y avait déjà un décalage avec le collège électoral qui pose de gros problèmes, puisque Biden peut avoir 7 ou 8 millions de voix d'avance sur Trump, il risque de perdre l'élection. Et ensuite, vous avez 50 sénateurs républicains qui représentent des millions d'électeurs de moins que les électeurs démocrates qui ont autant de pouvoir. Et dans le même temps, en plus, les républicains font le même coup, entre guillemets, qu'ils avaient fait à la suite de l'élection d'Obama, c'est-à-dire qu'ils essaient de verrouiller le processus électoral à l'échelle des États, en se livrant à un charcutage électoral très important. et en modifiant le mode de scrutin. Donc là aussi, c'est un gros problème pour la démocratie américaine, c'est l'absence de consensus sur qu'est-ce que c'est voter. À quel moment on doit voter? Est-ce qu'on doit voter une journée, 10 journées, 3 semaines, 1 mois? Est-ce qu'on peut voter à distance ou pas? Comment il faut le faire? Qui peut voter? Qu'est-ce qu'il faut présenter comme carte d'identité? Des choses qui nous semblent complètement incroyables d'un point de vue européen, où on est tous à peu près d'accord sur comment voter. Aux États-Unis, il n'y a pas de consensus là-dessus. Donc on est vraiment face à une situation où les valeurs démocratiques ne sont pas du tout consensuelles, et où pour Biden, il a très peu de marge de manœuvre pour pouvoir agir. Donc c'est vrai que c'est difficile, et on voit arriver effectivement ces midterms à la fin de l'année qui vont probablement être très difficiles pour lui. Donc c'est vrai que là, ça fait beaucoup.
Effectivement, les cartes pourraient bien être redistribuées mi-novembre avec les élections de mi-mandat. On annonce que les Républicains pourraient reprendre la Chambre des représentants. Ça annonce encore une fois, Nicole Bacharan, je vais vous entendre parce que vous souhaitez réagir, une obstruction au Congrès, comme on l'entend souvent. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Simon Grivet, les institutions responsables aussi de la désillusion des Américains? On évoquait les inégalités entre les États. Je vais citer... Chaque État américain, il faut le savoir, dispose de 2 représentants au Sénat. Ça veut dire que, par exemple, dans le Wyoming, il y a 580 000 habitants, il y a 2 représentants. Et en Californie, 39 millions d'habitants, il y a 2 représentants également. Qu'est-ce que vous en pensez,
oui,
Nicole
Bacharan?
Oui,
ce qui est toujours très, très difficile à accepter au moment des élections.
Et ça peut contribuer à entretenir cette fracture.
En fait, je crois que fondamentalement, ce qui se passe, c'est que le système institutionnel américain, tel qu'il a été imaginé à la fin du XVIIIe siècle, est fondée sur l'obligation du compromis. Le pouvoir a été divisé entre des branches de pouvoir qui ont des pouvoirs à peu près égaux, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Et par exemple, pour passer là une loi, il faut que qu'elle soit votée dans les mêmes termes, dans les 2 chambres, que le président signe. S'il appose son veto, il faut qu'il y ait une majorité qualifiée très très forte pour aller au-delà. Et le but de ces institutions, depuis le début, c'était que c'était très long, ça bloquait, le blocage est normal. S'afforcer à discuter et à trouver le juste milieu. Personne n'était très content et personne n'avait tout à fait perdu non plus. Si on a des élus, des responsables qui refusent le principe de compromis, pour qui le compromis c'est la trahison, les institutions américaines ne fonctionnent plus. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle.
Alors, mais face à l'urgence de la situation, parce que encore une fois, il y a des mots forts qui sont dits, hein, il y a des risques de guerre civile, selon certains observateurs aux États-Unis. Face à cette urgence-là, est-ce que on peut imaginer une réforme institutionnelle? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
On ne peut pas imaginer de réforme institutionnelle.
Non, on fait de la tête également, Jérémy Guez. Je vais vous entendre dans un instant.
C'est justement le drame. À passer un amendement, par exemple, à la Constitution, ça exige une majorité des 2/3 dans les 2 chambres du Congrès, une ratification dans 3/4 des parlements locaux, puisque chaque État a son propre parlement. Et ça exigerait, en cas de contestation, un passage devant la Cour suprême qui, à l'heure actuelle, a une majorité très, très fortement conservatrice. Donc, si jamais l'amendement en question n'allait pas dans ce sens-là, il serait arrêté bien avant qu'on passe au vote. Et c'est tout le drame. Tout dépend de la qualité du personnel politique à l'heure actuelle. Et or, ce personnel politique, pour la grande majorité d'entre eux, refuse le compromis au-delà de leur parti.
Jérémy Guez, pas de réforme institutionnelle possible, donc ça veut dire que le mal va s'aggraver. La question ce soir de notre débat, c'est l'Amérique peut-elle cicatriser? Non, elle ne peut pas cicatriser.
Alors,
après, évidemment, cet assaut il y a un an, c'est dont on parle.
Je pense qu'elle pourrait le cicatriser à la faveur du plus petit dénominateur commun qui existe entre toutes ces parties prenantes, à savoir l'état de l'économie. Simon avait raison tout à l'heure de souligner que l'accord bipartisan existait sur l'infrastructure. Il a 1000 fois raison. Et d'ailleurs,
la seule note positive qu'on a entendue depuis le début.
Absolument.
D'espoir, en tout cas, pour la société américaine.
Effectivement. Mais je le place justement sous l'étiquette de l'économie, parce que l'infrastructure est souvent défaillante aux États-Unis. Et là, on parle véritablement de gain pour un certain nombre d'États, qui soient républicains ou démocrates. J'interprète l'action du président Biden depuis le début de son mandat sur le plan domestique comme essayer de viser ce plus petit dénominateur commun qu'est l'économie. Alors, il a lamentablement échoué justement à cause de Joe Manchin, de Simon Grivet en parlait tout à l'heure, ce sénateur de la Virginie occidentale, donc sénateur démocrate, mais en terre républicaine bien profonde, et qui a utiliser son droit de quasi-veto, effectivement, pour mettre à mal cet énorme plan. Juste pour donner un son un tout petit peu dissonant par rapport à mes camarades, il a peut-être commis une erreur, Joe Biden, et ses conseillers se sont imaginés comme cette nouvelle génération à la Lyndon Johnson, avec une profonde transformation de la société américaine, et a voulu tout miser sur cet énorme plan social. Vous prenez les éléments un par un, c'est sûr qu'il pourrait s'engager avec des négociations avec Joe Manchin, pour essayer de faire avancer la machine sur ce terrain économique. À mon sens, s'il fallait cicatriser, ça serait effectivement de viser plus petit et d'essayer de réduire les ambitions.
Et on peut imaginer que justement, d'un point de vue économique, chaque Américain pourrait s'en sortir. Ça, c'est une piste positive de sortie de crise, justement, de cette fracture américaine.
Absolument, absolument, parce que cette classe moyenne américaine...
C'est possible, je veux dire, c'est ma question.
Absolument, et cette classe moyenne américaine qui vivait le rêve américain n'a plus l'impression de le vivre. Et en la réconciliant avec ce rêve, je pense qu'on pourrait effectivement voir cette porte de sortie.
Nicole Bacharan, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'économie qui permettrait de réduire cette fracture, encore une fois, américaine, cette division qu'on observe depuis maintenant des années.
Oui, absolument. C'est une vraie piste, et c'est vraiment bien que Jérémy souligne cet aspect positif, les choses, ou potentiellement positif des choses, parce qu'on en a vraiment besoin. Mais c'est vrai que l'économie et le social sont des domaines où des Américains de bords très opposés peuvent trouver leur avantage. Et pour aller dans cette direction, il faudrait à la fois, ou ça aiderait beaucoup en tout cas, que les partisans de Trump au sein du Parti républicain renoncent à propager ce mensonge d'élection volée et ce désir de revanche, ce qui n'a pas lieu d'être, et que dans le Parti démocrate, outre les deux sénateurs très conservateurs dont on a parlé plusieurs fois, l'aile gauche du Parti démocrate mette un petit peu en arrière toutes les questions culturelles sur le genre, la race, etc., qui franchement ne touchent pas une grande partie des Américains, alors qu'ils ont des questions sur l'inflation, sur le logement, sur les salaires, qui sont beaucoup plus urgentes. Donc, au fond, on disait que autrefois, il y a fort longtemps, que le business de l'Amérique, c'est le business. C'est peut-être une bonne piste aujourd'hui.
Simon Grivet, votre avis. Alors, c'est vous qui avez cité l'économie, mais je voudrais savoir, est-ce que, comme le dit Nicole Bacharan, c'est finalement à la classe politique d'insuffler ce vent nouveau qui pourrait souffler sur l'Amérique. Est-ce que vous pensez que ça peut être la fin des divisions?
C'est possible, mais après, on a aussi vu des divisions très féroces, alors qu'il y avait des périodes de grande prospérité. Hein. Pensons à la fin du mandat Clinton, 1998, tout se passait, enfin, une prospérité formidable, et puis voilà, l'affaire Lewinsky et vraiment des affrontements partisans vicieux. Quoi. Donc moi, je pense qu'on est quand même au milieu de la partie, et que tant que l'hypothèque Trump sur le système, sur la démocratie états-unienne n'est pas levée, on n'en sortira pas. C'est-à-dire que on va savoir déjà le verdict de 2022, et puis après ce qui va se passer pour la présidentielle. Est-ce que tous les ambitieux républicains vont se coucher devant Trump? C'est pas évident. Il y a plein de jeunes, entre guillemets, candidats qui ont envie de s'imposer aussi. Quel sera le porte-drapeau? Est-ce que ce sera Biden? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Ça va être compliqué. Moi, je pense que je serais moins pessimiste que Mme Bacharan sur la question institutionnelle. Je pense que si les démocrates arrivaient à s'unir pour se débarrasser du filibuster au Sénat, ce serait une avancée extraordinaire. Filibuster qui a toujours été utilisé pour faire des barrages réactionnaires aux grandes réformes, contre l'avancée des droits civiques, c'était l'arme des sénateurs ségrégationnistes du Sud. Donc il faudrait que les démocrates parviennent à s'en débarrasser, c'est pas gagné. Et s'ils y arriveraient, ils pourraient faire passer un certain nombre de lois très importantes, notamment, comme je vous disais, sur la question des élections, qu'est-ce que c'est voter en Amérique? Et ça, c'est important aussi.
Et alors qu'en vue de 2024, on craint aussi de voir un futur scrutin qui pourrait être volé. On va terminer avec ce son de cloche plutôt positif de votre part, Simon Grivet, mais il y a aussi ces inquiétudes et je dois les relayer. Merci beaucoup, Simon Grivet, maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste des États-Unis. Merci, Nicole Bacharan, historienne, politologue, auteur du livre « Les grands jours qui ont changé l'Amérique ». Et merci à vous, Jérémy Guez, professeur d'économie à HEC, spécialiste des États-Unis. Votre ouvrage « États-Unis, déclin improbable, rebond impossible ». Merci à Florence Ponce à la préparation des débats toute la semaine sur RFI, Laurent Philippot à sa réalisation, et merci à la documentation de Radio France Internationale. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale.
une semaine d'actualité.